Troisième et dernière partie de ce mag, un sujet délicat mais important en compagnie de Léa Journaud ici au studio, et vous n'êtes pas seul.
Absolument Bastien, on va parler de ce sujet. Une nouvelle association a vu le jour en janvier dernier, elle se nomme Lagopède. Elle a un but bien particulier, soutenir les proches des victimes de violences sexuelles. Pour en parler, j'ai à mes côtés la présidente de l'association, Sophie Juliatine Albon, bonjour.
Bonjour.
Et puis Sarah Briguet, vice-présidente, bonjour à toi aussi.
Bonjour.
Expliquez-nous un petit peu l'histoire de cette association, l'histoire de Lagopède. Finalement, ça a commencé comment ?
Alors moi, j'ai commencé à parler de mon histoire à partir du moment où j'ai commencé à parler. J'ai reçu énormément de témoignages de gens qui me racontaient leur histoire terrible sur ce qu'ils avaient vécu quand ils étaient petits, qu'ils ont été abusés pour la première fois. Et je me suis dit, c'est hyper important de trouver le moyen de pouvoir leur donner la parole. Parce que moi, quelque part, j'avais une chance, c'est qu'il y avait un petit peu de notoriété que j'ai utilisée pour ça, volontairement. Et je voulais utiliser cette notoriété pour les aider. Et mon moyen était de me dire, j'ai pas de formation thérapeutique, je connais le sujet, évidemment, donc je peux le comprendre, je peux le recevoir, mais il faut que ces gens-là puissent parler. Et c'était dans ce but-là, parce que le jour où moi j'ai pu parler, j'ai senti une libération, une liberté. Déjà rien que ça, c'était énorme. Et je voulais donner cette chance-là aussi à toutes ces personnes. Mais j'étais pas armée pour le faire pratiquement, donc je me suis associée. Et c'est Sophie Juliatine Albon qui m'a accompagnée pour créer cette association.
Pourquoi Lagopède ? Alors, Lagopède A-I-D à la fin. Pourquoi cette appellation-là ?
Oui, alors ça, c'est un petit peu mon côté très valaisanne qui a pris le dessus. Le Lagopède est un oiseau de nos montagnes. Mm-hmm. Alors déjà, l'oiseau représente la liberté, l'envol vers un renouveau. Mais il a une spécificité, c'est-à-dire qu'il arrive à changer de plumage. En hiver, il est entièrement blanc pour se confondre avec la neige. Et en été, il a un plumage plutôt brun-noir qui se confond avec les cailloux. Et au fait, ce côté caméléon, on va dire, qu'il a, c'est aussi ce que les victimes appliquent au quotidien pour se muer à travers la foule, pour que personne ne les reconnaisse, que les prédateurs ne sachent pas les reconnaître aussi. Et au fait, c'est un très bon...
Symbole.
Symbole, exactement, pour représenter, au fait, leur combat au quotidien. Et voilà, c'est un choix qui s'est imposé.
Alors finalement, cette association, évidemment, elle a un but, hein, on l'a dit, soutenir les proches des victimes de violences sexuelles, mais pas que, il y a aussi les victimes en elles-mêmes, à travers la parole, c'est ça ?
Exactement, parce que la parole, c'est le premier pas vers la libération, parce que souvent, ceux qui vivent ça, quasiment tout le temps, vivent dans le silence, et le silence devient pesant, lourd, et s'il y a moyen justement de briser cette chape du silence, du coup c'est la libération, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'où l'importance de parler. Certains n'ont pas besoin d'une thérapie, certains n'ont pas besoin de la justice, certains ont juste besoin de parler et d'être compris et entendu. C'est vraiment ça le but.
Et si je peux ajouter, il y en a certains aussi qui, juste le fait de venir et d'entendre d'autres histoires, même s'ils n'ont encore pas la force de parler, leur permet de se sentir moins seuls. Et je pense que ça, c'est aussi très important.
Tout à fait.
Il y a aussi cet aspect-là, justement, voilà, dont vous parlez. C'est le côté « je ne suis pas seule », le côté « il y en a, entre guillemets, il y en a d'autres comme moi » et voilà, sans forcer non plus à parler. Ça aussi, c'est important.
Ça, c'est très important, justement. On peut venir au groupe et puis s'asseoir et écouter. Mais le fait qu'il y ait des gens qui ont vécu ça ou des proches qui ont vécu ça, qui ont suivi une victime, qui aide justement à passer cette personne dans le camp des survivants, ça, c'est déjà un pas. C'est comme une famille. On peut pas l'expliquer. Je dis souvent ce mot, mais c'est ce qui définit exactement ça, c'est la sororité. Mmh. On devient une famille, on se comprend, on sait, et il n'y a pas besoin d'entrer dans les détails comme si on va suivre une thérapie, par exemple.
Le côté survivant, justement, c'est quoi ? C'est avant qu'on parle, on est une victime, et après qu'on parle, on est un survivant ? Il y a ce côté-là un peu
Je pense que le côté victime, c'est celle qui vit justement toujours dans le silence à ressasser. C'est la personne aussi qui se plaint finalement. Mm-hmm. Oui, on peut se plaindre, c'est bien de se plaindre, il faut le faire, mais elle se plaint à personne. Mm-hmm. Elle se plaint à elle-même, donc elle se fait encore et encore et encore du mal. Donc de pouvoir venir se plaindre, entre guillemets, être entendue, être écoutée, déjà là, je pense qu'elle passe du statut de victime à survivant.
On parle de proches, c'est qui sont ses proches ?
Ou ça peut être beaucoup de gens. On pense pas que aux parents immédiats ou aux grands-parents ou aux frères ou sœurs. Ça peut être un voisin avec qui l'enfant a un lien très particulier. Moi, j'aime bien dire des fois même le chauffeur de bus qu'on voit tous les matins et puis qui a un lien fort avec un enfant et qui ressent qu'il y a un mal-être et qui a envie d'aider. Disons que ça touche n'importe quel adulte qui est bienveillant, qui veut aider un enfant et pour moi un membre de l'entourage de l'enfant.
Et puis justement, c'est un aspect dont on parle pas très souvent, enfin de plus en plus, mais ce côté entourage, ce côté voilà, eux aussi ont peut-être besoin de parler, eux aussi ont peut-être besoin d'aide. Il peut y avoir une espèce de culpabilité peut-être ou de comment on dit, de d'impuissance aussi.
Effectivement, lorsque par exemple on a un enfant qui vit ça, admettons qu'on ait trois enfants, qu'il y en a un qui est victime, qu'on dénonce la personne qui a fait ces actes, qui pourrait être le père par exemple, ou le frère, comment est-ce qu'on peut, quel comportement on peut avoir en famille après un truc comme ça? Est-ce qu'il faut éviter de surprotéger celui qui a été abusé? Il faut faire un équilibre. Comment on s'en sort avec tout ça? C'est aussi le but.
Et justement, voilà, il y a des l'association propose, on l'a dit, des groupes de parole. Comment est-ce que ça se déroule en fait?
Alors, les groupes de parole, c'est 2 heures, un soir par semaine. C'est un soir par semaine, une fois par mois, on fait soit un groupe de parole pour les survivants, soit un groupe de parole pour l'entourage. Et dans ces 2 heures-là, finalement, c'est un échange totalement libre. On demande aux gens qui viennent sur place une participation de 10 francs, parce qu'on part sur le principe que si l'association peut être autofinancée, ça lui permet une longévité. On n'est pas dépendant des dons, du coup, même si on en demande pour pouvoir permettre à ceux qui n'auraient pas les 10 francs de participer, d'avoir l'opportunité d'avoir des dons qui peuvent couvrir ces frais-là. Mais les 10 francs de participation, en fait, permettent cette assurance que les groupes auront toujours lieu. Et donc, voilà, le premier mardi de chaque mois est dédié pour les survivants. Et le dernier mardi de chaque mois est dédié pour l'entourage. Comme ça, on sépare quand même un petit peu, parce que les vécus sont quand même différents, les ressentis sont différents. Et le but des groupes de parole pour l'entourage, c'est vraiment de renforcer l'entourage, de leur donner des outils au quotidien, parce qu'on sait, ça a été prouvé scientifiquement, par beaucoup d'études à travers le monde, qu'un entourage solide, bienveillant, permet à l'enfant qui est victime de déployer sa résilience. Et ça, c'est très important. Et c'est vrai que les groupes pour les survivants, c'est beaucoup plus que ce qu'a dit Sarah à l'instant, le côté de pouvoir exprimer ce qui n'a souvent pas pu être exprimé, d'être entendu, reconnu par ses pairs et de se sentir moins seul et de passer de la victime au survivant.
Tout ça sans jugement, évidemment, enfin c'est une question un petit peu naïve, mais tout ça sans jugement, de façon anonyme aussi, ça, ce côté-là aussi, c'est très important. Si on vient, on parle, on s'attend à être écouté, entendu.
Exactement, et c'est ça justement, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se dire « je viens là, je vais être dénoncé, je vais être reconnu, je vais devoir sur une thérapie parce qu'on va penser que je ne suis pas bien ou on va me diriger ». Non, pas du tout, on fait vraiment ça dans un esprit totalement libre, il n'y a aucune obligation. C'est vraiment le côté simple, on vient presque en famille et il ne faut pas avoir peur, vraiment. Moi, je ne peux que dire le bien que ça fait et c'est ce que j'essaye de faire passer comme message.
Et aussi, oui.
Si je peux ajouter, je pense que le concept, vraiment, on a voulu renforcer au fait ce qui se fait déjà. On a une structure étatique extraordinaire, la LAVI, avec toutes les autres associations qui travaillent déjà fortement pour faire des psychothérapies pour aider les victimes à surpasser leur traumatisme. Je pense qu'un travail extraordinaire se fait en Suisse à ce niveau-là. Et nous, c'est vraiment un ajout qu'on aimerait amener pour tous ceux qui n'ont encore pas osé passer le pas, qui ont peut-être peur. Je dis souvent, on a peut-être peur d'en parler parce qu'on a peur qu'on va nous prendre nos enfants, parce qu'on n'a pas su faire, etc. Et je pense que c'est vraiment ce côté, je compare souvent avec les alcooliques anonymes. Vous venez, il y a personne qui se demande qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous avez fait ou pas fait comme procédure. Venez simplement comme vous êtes, c'est juste pour vous. Et ensuite, si cette libération leur permet d'avoir assez de force pour aller dans une procédure, etc., d'aller plus loin, bien sûr, on sera là pour les aiguiller vers des partenaires de qualité. Mais nous, on est vraiment ce côté couvrir un manque de services qu'il y aurait actuellement en Suisse.
Ça fait. C'est ça justement, voilà, vous l'avez dit, venir en complément finalement de ce qui ne se faisait pas ou se faisait moins en fait.
L'entourage, ça se fait pas.
Ça ouais. Se fait pas du tout.
Non.
Ok, d'accord. Donc c'est une première finalement.
Exactement.
Ces groupes de parole, ils se font où? Et puis c'est adressé à qui finalement? Est-ce que c'est adressé que dans le Valais ou alors comment ça se passe?
Alors c'est vrai qu'on est encore jeune comme association, donc pour l'instant on est surtout en Valais. Donc les groupes se déroulent à Sion. On va pas vous donner l'adresse maintenant ici pour des raisons d'anonymat, mais pour tous ceux qui aimeraient participer pourront bien sûr s'inscrire soit par le formulaire en ligne sur le site, soit par email. On vous donnera les coordonnées après. Le but étant de pouvoir avoir au moins un groupe pour chaque dans chaque canton. On a déjà reçu pas mal de demandes hors canton et le but est de nous déployer sur toute la Suisse étape par étape.
Parce que justement, parler de cet entourage, c'est aussi important que ce soit ici ou ailleurs, finalement.
Partout.
Exactement, partout dans le monde.
Où est-ce qu'on peut retrouver justement toutes les informations, le site internet ?
Oui, alors sur notre site internet qui est www.lagopedaid.org ou alors vous pouvez nous envoyer directement un mail qui est info@lagopedaid.org et on sera ravis de vous répondre.
Mesdames, est-ce que par hasard vous voyez quelque chose à rajouter ?
Je crois que c'est assez complet.
Oui, moi peut-être j'aimerais rajouter une chose. Par mon cursus, j'ai travaillé pendant de nombreuses années avec beaucoup d'associations. Et c'est vraiment quelque chose que toutes les études à travers le monde, qu'on soit en Afrique, en Inde, en Amérique, en Suisse, en France, bien égal le pays, 30% des enfants qui ont été victimes de violences, que ce soit sexuelles ou physiques, arrivent à déployer leur résilience naturelle pour s'en sortir. Parce que, justement, ils ont un entourage fort et solide. Et donc, il faut vraiment que les personnes qui seraient membres d'un entourage d'un enfant n'hésitent pas à venir chercher des ressources, parce que ça peut potentiellement sauver la vie à cet enfant.
Eh bien, parfait, le message est passé. Merci beaucoup, Sophie-Juliette Inalbon, présidente de l'association Lagoped, et Sarah Briguet, vice-présidente, d'être venue nous parler de cette association. On vous souhaite tout de bon pour la suite et une bonne fin de journée.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, mesdames. Et c'est la fin de ce 17h Mag.